Lizzy présente Femme de dictateur de Diane Ducret. Lue par Mickey Sébastien. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. Jean Racine, Andromaque, acte 4, scène 5. Introduction. Lettre d'amour à un dictateur. Führer adoré. L'État succombe précisément parce que vous laissez succomber les femmes. Cher Hitler, les femmes attendent un futur meilleur. Amy Hoffman, Dresde, 1932. Comme un avertissement, une inconnue ouvre le bal de la correspondance privée d'Adolf Hitler à la chancellerie du Reich. Les Allemandes espèrent un futur meilleur et exigent d'Hitler qu'il le leur bâtisse. L'intrépide chef de file du parti nazi s'en laissera-t-il compter par une provinciale? Les élections qui l'amèneront au pouvoir sont pour l'année suivante. Hitler a su écouter et inclure les femmes dans son programme. Pour les Allemands, il est le nouveau chancelier du Reich. Pour les Allemandes, il est l'homme providentiel, le surhomme. Dès lors, les lettres qui arrivent à la chancellerie privée ne répondent pas, loin s'en faut, au protocole habituel. Félicitations, conseils bien intentionnés et déclarations d'amour pour le moins passionnées affluent chaque jour. Si beaucoup d'hommes de tout corps de métier écrivent à Hitler, ce sont les femmes qui livrent les correspondances les plus intimes. Elles ne s'adressent pas au chef d'État ni à l'idéologue, mais à l'homme Hitler, dont elles espèrent des sentiments en retour. Mon Führer chéri, chaque jour je suis obligée de penser à vous. Chaque heure et chaque minute. J'irai volontiers à Berlin et viendrai à vous. Ai-je le droit de faire ça? Quoi qu'il advienne, ma vie vous appartient. J'aimerais bien savoir ce que tout cela signifie. Je ne peux plus travailler car je pense toujours à vous. Je ne peux aimer d'autres personnes plus que vous. Espérons que mon souhait se réalise. Écrivez-moi, s'il vous plaît, si j'ai le droit de venir. Difficile d'imaginer le dictateur à la petite moustache dans la peau d'un sexe symbole. Dérangeant surtout. Pourtant, Adolf Hitler reçut plus de lettres de fans que Mick Jagger et les Beatles réunis. L'afflux constant des lettres à la chancellerie privée du Reich suit sa courbe de popularité. En 1925, les textes sont traités par un seul archiviste. De janvier à avril 1933, il en reçoit plus de 3000. À la fin de l'année, on en totalise 5000. En 1934, arrivèrent au moins 12 000 lettres, et en 1941, plus de 10 000. À la chancellerie, on s'organise. Les lettres seront stockées dans l'archive A, créée à cet effet, où l'on met celles griffonnées par des femmes. Parmi ces milliers de lettres, entre 1935 et 1938, plus une seule carte de critique ou de remontrance. L'admiration est uniforme. La consigne donnée aux officiers chargés du courrier est claire. On ne répond pas aux amoureuses et dévotes d'Hitler. À moins que l'expéditrice n'annonce son intention de venir prochainement à Berlin pour embrasser personnellement son Führer adoré. Le directeur de la chancellerie privée signale alors la groupie aux autorités policières. Une réponse laconique met fin à tout espoir d'idylle. Madame, monsieur. Par la présente, j'accuse réception de votre lettre adressée au Führer et je vous communique que celui-ci, par principe, ne s'impliquera dans aucune affaire privée. Un salut allemand, Albert Bormann. Ces milliers de lettres de femmes désinhibées mettent le leader nazi très mal à l'aise. Les déclarations d'amour abstraites le tétanisent. En stratège, il reconnaît pourtant l'importance d'une telle correspondance en provenance du peuple. C'est son baromètre de l'opinion publique. Il se tient ainsi toujours informé du contenu des milliers de lettres reçues. Rudolf Hess, chargé de la correspondance jusqu'en 1931, puis Albert Bormann, lui prépare des résumés pour lui en faciliter la lecture. La correspondance privée d'Hitler, archivée à Moscou, offre ainsi un miroir des séduites du national-socialisme jusque dans leur chair. Elle dévoile un caractère méconnu des systèmes dictatoriaux. Leur pouvoir repose sur le potentiel de séduction du dictateur, autant que sur la coercition. Le lien entre Hitler et son peuple est fait aussi de désir. L'argument peut choquer. Il est simplement humain. Madame Klose souhaite ainsi participer à l'expansion du mythe Hitler. Elle lui dédie un poème en 1933, en espérant pouvoir le diffuser dans la presse. Nous acclamons tous Hitler, qui nous donne la paix et l'espérance. Ô toi, notre sauveur, les charges et les reproches tu supportes, sans oublier ton but. Vive Adolf Hitler, Heil Hitler, crie le monde entier. Illustre et aimé héros, ta loyauté est nôtre. Louons-le tous en cœur, levons les bras et crions réunis « Heil Hitler !» Elle reçoit la réponse inattendue que voici. « Chère Madame Klose, le Führer vous transmet un remerciement cordial pour votre lettre. Malheureusement, nous ne pouvons vous donner l'autorisation de reproduire ce poème, puisque le Führer refuse, par principe, toute forme de glorification de sa personne. » L'hiver suivant, Madame von Heiden, de Plötz, lui envoie un gros paquet de miel, avec des recommandations pour sa santé, lui expliquant comment faire réchauffer soigneusement le nectar afin qu'il ne soit pas trop liquide et ne perde ainsi son délicat arôme. Mon Führer, j'ai été comblée de savoir que vous aviez reçu mon miel. Et je voudrais encore vous en envoyer de temps en temps, afin de participer ainsi un peu à vos déjeuners. Quel plaisir que ce produit naturel de notre terre de Poméranie contribue à entretenir votre énorme dépense d'énergie physique et mentale. Avec admiration et sentiment, Madame von Heiden, Plötz. Pour certaines de ses admiratrices, il serait inconcevable et éminemment dommageable que tant d'énergie ne serve qu'à la politique. Nombreuses sont celles qui ont d'autres suggestions à faire. Hartmannsdorf, le 23 avril 1935. Cher Führer Adolf Hitler, une femme de la Saxe aimerait beaucoup avoir un enfant de vous. C'est pour sûr un fort désir très particulier, et la seule pensée que vous ne devez pas avoir d'enfant m'obsède. Voilà donc le souhait que je tenais à vous exprimer dans cette lettre. Une lettre est une affaire de patience. On peut la lire et la mettre de côté. On peut la laisser résonner en soi, tout comme une jolie mélodie. On peut aussi la recevoir en tant que lettre et la suivre. Mes désirs se mêlent à mes craintes. La lettre pourrait ne pas vous parvenir. Vous n'auriez pas le temps pour un enfant. Vous vous sentiriez trop vieux pour un enfant et auriez depuis longtemps déjà dissipé cette idée comme étant impossible. Malgré tout, un enfant de vous devrait encore vraiment voir le jour. Ceci est mon plus grand souhait, que j'aspire à accomplir avec toute la force de mon cœur. Friedel S. Le 21 avril 1938, trois femmes de Ludwigsfeld, au sud de Berlin, manifestent par écrit leur émotion après l'avoir simplement entreaperçue. Mon Führer, le hasard nous a conduit à la station de Ludwigsfeld le jour du plébiscite. À l'approche du train de 13h20, nous vîmes dans la locomotive un camarade du parti en uniforme. Cela nous fit nous douter que notre Führer était dans ce train. Et nous ne nous sommes pas trompés. Trois femmes radieuses de bonheur purent apercevoir leur Führer, si joyeusement élu, et reçurent en récompense un salut amical de la main. Par la présente, les trois femmes, extrêmement heureuses, remercient de tout leur cœur leur Führer et sollicitent un autographe pour chacune d'entre elles, en souvenir de cet instant si merveilleux et inoubliable. Sieg und Heil. Merci à notre Führer chéri. Martha Imse, Anna Lopin, Elisabeth Pessler. À la fin des années 1930, l'admiration vouée à Hitler est à son comble. Les projections romantiques n'ont plus de limites. Considère ce qu'un Sagittaire peut faire d'un bélier. L'éternelle femelle vous a attiré. Alors, exulte, ô mon cœur, et laisse-toi enlacer par les étoiles. Et dis-moi encore une fois, ô jeune femme, ma jeune femme, comme je vous aime. Comment m'aimes-tu? Tu es les fleurs des champs. Ô les marguerites! Pourquoi être si timide et agir par des voies secrètes? Je ne peux pas deviner tes pensées.